Bonjour tout le monde. Bon milieu de semaine. Nous aurons l'occasion de recevoir en entrevue sans filtre tout à l'heure le comédien Marc Messier qui se lance sous peu. En fait, l'année prochaine, il est en train de continuer d'écrire ses textes. Il y en a déjà une partie d'écrite pour son premier one-man show. Tu sais, à plus de 70 ans, faut le faire. Marc a été très, très, très occupé tout au long de sa carrière, qui a reçu plusieurs prix. On va lui demander comment il s'est préparé le mental pour cette première incursion dans l'industrie de l'humour. Je vais vous demander si vous faites confiance à votre médecin pour vos suivis médicaux. Il y a eu un cas, justement, d'un homme de 46 ans dans la région de Lévis qui a appris un an et demi plus tard qu'il avait un cancer, qu'on avait même la preuve qu'on l'aurait pu le détecter, lui dire avant. On l'avait détecté, mais on y a pas dit. On a comme oublié de lui dire. Comme quoi, faut faire attention à son dossier médical et au suivi. Faut le faire. On aura le docteur Christiane Laberge qui va nous dire un peu ce qu'elle pense de tout ça. Je vais vous demander également d'ici une demi-heure si vous êtes comme les jeunes de moins de 40 ans. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un sondage qui nous dit qu'il y en a environ 1 sur 2 de jeunes de moins de 40 ans. Ça inclut bien sûr les millénarios qui pensent être propriétaire, c'est un rêve inatteignable. Genre, oublie ça, on y arrivera pas, coûte trop cher, on n'aura jamais les moyens de se mettre de l'argent de côté. Je vais vous demander si c'est votre cas, si vous rêvez encore d'être propriétaire et si vous êtes en train justement de trouver que finalement c'est peut-être un rêve qui n'est pas pour vous parce que c'est un rêve inatteignable. Mais on commence notre première discussion en revenant sur le procès de l'ex-animateur-producteur Éric Salvaille. La journée 3 de ce procès est entamée. Hier, on a beaucoup regardé ça. Évidemment, peut-être vous le suivez de façon intensive. Il y a des gens qui sont au palais, justement, et qui essayent de voir si on va finir par comprendre ce qui s'est véritablement passé. C'est pas évident. Et ce que j'entends sur les réseaux sociaux, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble ce matin, c'est que on commence déjà, puis ça a pris même pas une journée de procès là, pour qu'on commence à sous-entendre qu'Éric Salvaille pourrait revenir à la télévision. Que finalement, la victime est pas crédible. Il se dit beaucoup, beaucoup de choses, évidemment. Comme le reste, là, faut en prendre puis en laisser. Mais la discussion tourne autour du fait, puis ça m'a un peu troublée, je vous avoue. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben, on sait bien, les victimes disent pas toujours la vérité. Et l'avocat, d'ailleurs, d'Éric Salvaille, qui a été assez rude, enfin, il a fait son travail, vous allez me dire, là, mais il a été quand même assez rude, il a comme quand même accusé la victime alléguée de mentir pour attirer l'attention. Cette phrase-là, je la trouve un peu forte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On sait qu'au Québec, il y a quand même beaucoup de gens qui refusent, qui se refusent de témoigner parce qu'elles savent, elles se disent... Je passerai jamais à travers un procès. On me croira pas. La notion de crédibilité est au cœur de ce genre de cause. Au-delà du fait que c'est déjà en partant difficile de témoigner quand on est victime d'un acte criminel, quand il s'agit de se présenter en cour, de faire face à une défense extrêmement armée, bien préparée, c'est pas évident. Je voudrais vous entendre là-dessus, avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous estimez, par exemple, qu'on est trop sévère envers Donald Duguay, cette victime alléguée qui affirme que Éric Salvaille a été au-delà de la grossièreté, l'a agressé, qu'il l'aurait même séquestré? On va en discuter avec des spécialistes. L'avocat criminaliste Maître Jean-Pierre Rancourt est avec nous. Bonjour, Maître Rancourt.
Bonjour, Madame Isabelle.
Et également avec nous Jean-Claude Barnheim, qui est spécialiste en criminologie. Bonjour, Monsieur Barnheim. J'aimerais avoir votre opinion à tous les deux. Je commence avec vous, Maître Rancourt. Comment vous avez vu ça jusqu'à maintenant? On a vécu 2 grosses journées de procès.
Ben, écoutez, l'avocat, on revient là-dessus, l'avocat Massicotte a fait son travail. Il a été rude, comme vous dites, mais c'est son travail. Et s'il avait dépassé les bornes, le juge est là pour l'arrêter. Il ne l'a pas arrêté parce qu'il l'a fait. Quand on est en contre-interrogatoire, on est là pour tester la crédibilité de l'individu. Et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que l'avocat a réussi à prouver hier? C'est que l'erreur de la victime là-dedans, c'est d'avoir parlé. Et trop parlé. Hein. On était à la télévision, tout le monde en parle. On était sur les réseaux sociaux. On a répondu aux journalistes, même hier ou avant-hier, directement au palais de justice. Et on a démontré que ce gars-là est en mission. Hein. Il est en mission pour, comme il disait, je fais ça pour moi, mais surtout pour les autres. Et il a même un site Internet qu'il a commencé pour les victimes. Donc, ce que l'avocat a fait, c'est d'essayer de démontrer que cet individu-là, il est victime, mais à un moment donné, il a voulu aller en mission pour tous les victimes d'agressions sexuelles, et que là, peut-être que quand on est en mission, on exagère ou même on ment. Alors, c'est là qu'on est rendu.
Mm-hmm. Mais le fait d'avoir un site Internet, pour vous, ça le décrédibilise?
Pas juste ça, c'est que on voulait démontrer que le gars est en mission. Il n'a pas porté plainte en 93. Mmh. En 2017, quand tout le monde a commencé à parler du comportement de Salvaille, il a décidé, lui, de se présenter là, de porter une plainte. Il a même voulu que sa figure et son nom soient publics alors qu'il n'est pas obligé. Et il va même, et on l'a compte interroger avec ça, il va même pousser sur le DPCP en disant « Vous n'avez pas de bon sens, vous n'avez pas porté ma plainte encore. » Et la procureure de la Couronne qui a été assignée là-dedans n'est pas compétente. Et écoutez, pour une victime, là, c'est un petit peu loin, ça, là, de critiquer le procureur de la Couronne qui va s'occuper de lui. Et ça, on a tout mis ça en preuve hier. Ça démontre un petit peu l'individu qui est en mission. Est-ce que sa crédibilité est attaquée? Ben, peut-être.
Pour vous, c'est pas quelqu'un de crédible? C'est pas une victime crédible ici?
Ben, c'est une victime qui peut être crédible, mais avec ce que... Vous savez, on dit toujours aux gens, à nos clients ou à des victimes, ne parlez pas, parce que tout ce que vous allez dire, éventuellement, on va pouvoir vous contre-interroger. Je vais vous donner un exemple. Dans une affaire de meurtre, je contre-interroge pendant 2 jours l'informateur, celui qui dénonce mon client. Et au bout de 2 jours, et d'ailleurs, il y avait une déclaration écrite aux policiers, il avait témoigné à l'enquête du coroner, il avait fait une autre déclaration après, l'enquête préliminaire, j'avais du stock pour 2 jours. Puis, au bout de 2 jours, j'ai dit, avant de m'asseoir, j'ai dit une dernière question, n'est-il pas exact, monsieur, que vous êtes un menteur? Et le gars a répondu oui. Et je lui ai dit, ben, j'aurais peut-être dû vous demander ça au début. Mais vous savez, le contre-interrogatoire, c'est fait pour ça. Mm-hmm. Et le juge est là pour arrêter l'avocat, ce qui n'a pas été fait hier. La seule chose
Sauf qu'hier, à la question, justement, du juge, de maître Michel Mascotte, qui est l'avocat, en fait, d'Éric Salvaille, ici, quand il lui a dit, n'est-ce pas vrai que vous voulez un peu vous attirer de l'attention, il a dit non. Pas du tout. Il n'a pas dit oui. Il a dit non.
Non, c'est sûr qu'il a dit, il a dit non, mais quand même, on fait des points avec ça. Et le juge aura à déterminer s'il y a peut-être un danger que l'individu, compte tenu qu'il est en mission, exagère les faits.
OK, d'accord. Jean-Claude Barnheim, votre opinion de criminologue là-dessus?
Bon, la question des victimes d'agressions sexuelles est une question particulière dans le sens que les conséquences sur les individus ne sont pas nécessairement du même ordre que pour les victimes traditionnelles ou pour les autres types de crimes. Et la procédure qui est actuellement en place n'est pas faite pour prendre en considération la situation des victimes d'actes criminels. Et il faudrait que les victimes d'agressions sexuelles soient prises en charge en tenant compte de cette dimension psychologique qui les a affectées et qui les amène à réagir de manière très spécifique par rapport à leur situation. Donc, il faudrait à quelque part que l'État, le gouvernement, réfléchisse à la manière de faire. Il faut bien comprendre qu'effectivement, il peut y avoir des victimes qui mentent. Donc, il faut qu'il y ait un processus général d'enquête qui soit établi en fonction de cette catégorie de victimes. Et actuellement, on n'a pas vraiment ça.
Donc, dans le moment, je m'excuse, dans le moment, il y a quand même des spécialistes, c'est-à-dire qu'il y a des procureurs de la Couronne, il y a une escouade de procureurs de la Couronne qui sont spécialisés là-dedans, il y a des policiers qui sont spécialisés pour ce genre de crime-là. Donc, on est pas mal mieux qu'on était il y a 20 ans pour protéger les victimes.
On est mieux, mais la procédure par rapport à la défense et par rapport à l'ensemble du processus, une fois que le tribunal commence à siéger, la procédure est la procédure, je dirais, classique. Et je pense qu'on est actuellement, par rapport à la gestion du phénomène du crime, à un moment où il faut réfléchir à la manière de faire. Parce qu'on a un processus qui est conçu à partir des principes qu'on a établis au cours du 18e et 19e siècle et renforcé, si on veut, au 20e siècle. Et je pense qu'on en est rendu à un stade où il faut réévaluer la façon de faire et les principes sur lesquels on fonctionne et tout le mode de pour colliger les preuves, et le type de preuves dont on a besoin pour arriver à une décision. Parce qu'il faut voir que le système actuel, il est fait de manière telle que c'est noir ou blanc. Donc, il y a un crime de commis ou il n'y a pas de crime de commis.
Mais où on doute qu'il y ait un crime de commis. Il y a la notion de doute raisonnable. C'est-à-dire, à partir du moment où... Ça ne veut pas dire noir-blanc, mais disons qu'il y a une zone grise qui est celle du doute. Et ce doute-là, si on est capable de prouver qu'il y en a un, va faire en sorte que l'accusé sera pas trouvé coupable, en fait. Cette notion de doute-là est importante.
Justement, c'est la base du fonctionnement du système, mais en même temps, par rapport justement aux questions d'agression sexuelle, c'est qu'on est dans une dynamique différente parce qu'on sait que l'impact psychologique lorsqu'il y a une agression sexuelle a des répercussions qui font que les gens ne parlent pas pendant un certain temps, éventuellement se mettent à parler et que là, toute l'agressivité accumulée, toute la... sort, et à ce moment-là, ça se fait de manière, je dirais, désordonnée. Et c'est là qu'il y a peut-être lieu de se poser des questions. Je suis pas contre la question que le doute soit favorable à l'accusé. Ce que je dis, c'est que ce qu'on voit là au quotidien, la preuve en est, c'est que les personnes victimes hésitent à témoigner compte tenu du mode de fonctionnement du système. Ouais. Donc, il faut s'arrêter puis s'interroger sur le fonctionnement de ce système et essayer de trouver des aménagements qui vont faire en sorte que la justice soit rendue et que les gens aient aussi confiance dans la justice.
Ouais.
Et le pire, c'est que plus on va, plus les gens mettent en doute l'impartialité du système et l'intérêt de rendre réellement justice à toutes les victimes.
Mais la difficulté aussi, c'est que ce qu'on comprend, puis le système est fait comme ça, là, puis vous voulez le changer, mais Jean-Claude Barnard, on comprend, en particulier pour les victimes d'agressions sexuelles, parce que vous dites, dans ce cas-ci, quand on s'attaque à l'intégrité psychologique de la victime dans un cas d'agression sexuelle, c'est extrêmement délicat de demander à la victime d'être forte. Donald Dugis, semble-t-il... est bien préparé et semble fort, là. Il répond aux questions. En même temps, ce qu'on essaye de faire, c'est de lui couper les jambes d'une certaine façon, de démontrer qu'il exagère, qu'il ment même jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'en ce moment, on regarde cette cause-là et tous ceux qui travaillent dans les groupes, les organismes qui aident des victimes d'actes criminels, en particulier d'agressions sexuelles, vont vous dire qu'elles sont extrêmement... découragée et inquiète parce que cette cause-là va peut-être nuire à toutes les autres personnes qui ont peut-être envie ou qui se retiennent parce que c'est vrai que celui-là, ça fait 24 ans que ça s'est passé, mais on sait que c'est long des fois témoigner, on sait que c'est long porter plainte, on sait que c'est long ne serait-ce que de mettre de la honte de côté. Comment vous voyez ça, Maître Rancourt?
Ben, c'est évident, sauf qu'on pourra pas changer le système dans le sens que l'accusé est présumé innocent et c'est à la couronne d'approuver hors de tout doute raisonnable. Et pour ça, on doit permettre à la défense de se défendre, donc de contre-interroger une présumée victime. Parce que vous savez, malheureusement, on l'a vu déjà, il y a des victimes qui mentent. Hein, on peut pas se dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Hein, on a eu des occasions, moi j'ai eu des procès où c'était clair que la victime mentait, et même on a vu des cas où une plainte a été portée, et par la suite la victime a dit, ben non, j'ai porté une plainte, c'est faux, parce que il y avait quelque chose contre l'individu. Alors ça nuit beaucoup plus que le procès qu'on vient de voir, qu'on voit dans le moment. Mais le problème, c'est que s'il y en a qui ont déjà menti, c'est possible que quelqu'un mente ou exagère. Et est-ce que tous les éléments que Duguay nous rapporte, est-ce que c'est vraiment tous arrivé?
Mais puis on va s'arrêter ici parce qu'on va continuer d'en discuter après. Mais tu sais qu'il y a un urinoir, deux urinoirs qui soient. Est-ce que c'est vraiment important de savoir ça? Est-ce que ça démontre que la victime exagère ou ment? C'est intéressant d'ailleurs parce que bon, ça nous renseigne sur comment se déroule un procès. Il y a beaucoup de gens là qui m'écrivent. Il y en a qui disent ça serait quoi dans le fond qui gagnerait la victime ici à se dévoiler avec une fausse histoire? Ces gens qui m'écrivent ça, ils disent je vois pas le bénéfice de se dévoiler ainsi et de subir un tel salissage. On va s'arrêter ici. Je vais vous poser la question. On parle du procès d'Éric Salvay. travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de faire le procès de la victime? Ici, évidemment, jusqu'à maintenant, c'est le seul à avoir témoigné, à avoir été contre-interrogé. L'autre question que je me pose, moi, on va-tu entendre Éric Salvaille? Est-ce qu'il va témoigner? Moi, j'ai l'impression, à la lumière de ce qu'on sait pour l'instant, je suis pas sûre que Maître Massicotte le fasse témoigner. Il doit se dire, peut-être j'ai pas besoin du tout du témoignage d'Éric Salvaille, parce que Salvaille pourrait se faire malmener à son tour. 514-790-9850, 1-866-790-9850 pour nous joindre sans frais. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. À tout de suite, tout le monde. On parle du procès d'Éric Salvaille. On est au jour 3 aujourd'hui. Avez-vous l'impression qu'on est en train de faire le procès de la victime? Je vais m'adresser maintenant aux auditeurs. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour, madame. Moi, c'est tout à fait le cas parce que ce que je trouve le plus désolant là-dedans, c'est qu'on a ici une victime présumée qui fait preuve d'aplomb, qui est prête à aller au bâton. Puis lui, on se sert de ça pour démolir la crédibilité de la personne. Imaginez les personnes qui sont en arrière, parce que M. Salvaille, bon, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais il y a des allégations, c'est connu dans le milieu, tout ça, puis lui, ces personnes-là sont en arrière, puis ils regardent leur meilleur poulain aller au bat pour eux, puis ils voient comment le traitement qu'on lui réserve. Mon Dieu, moi, j'aimerais pas ça être une victime de M. Salvaille, avoir présumé, dans ce cas, moi, je suis pas avocat, là, je fais pas preuve de cette rhétorique-là. Puis, moi, ce que je trouve désolant, c'est que on ne tient pas compte, dans ce type de procès-là, oui, la présomption d'innocence, un doute raisonnable, mais il y a un aspect psychologique d'emprise de ces prédateurs-là qui exercent sur leurs victimes. Puis, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment désolant. Puis, je voudrais faire un parallèle avec le procès de Weinstein. Là.
Ouais.
C'est les victimes qui sont allées au bâton, qui sont en procès. On leur reproche à ces femmes-là d'avoir entretenu une relation, maintenir un lien avec sa victime.
De s'être mise dans cette position-là, carrément, là, de s'être mise dans cette position-là de victime, finalement. À risque, ben, ouais.
Non, mais écoutez, je sais pas, là, moi, il y en a eu des histoires d'agression sexuelle dans la famille, puis on sait pas ce que c'est là, de vivre, mettons, avec un père là, qui t'agresse. Est-ce qu'on doit quitter la maison quand on est agressé? Ouais. On va se faire blâmer d'avoir maintenu un lien avec notre père parce que Chris, c'est notre père, là. Vous comprenez, madame?
Tout à fait.
Et ça, c'est déjà arrivé dans des procès, là. Mm. Donc, c'est ça qu'il faut revoir aussi. Moi, en tout cas, j'étais jury. Je tiendrai pas compte du fait que monsieur est peut-être dans une vindicte où il cherche vengeance. J'espère qu'il cherche à.
Là, vous savez, merci.
Ça fait 23 ans qu'il est agressé.
Ouais. Merci, Martin. Vous savez que c'est pas un jury, hein, que c'est un procès avec devant juge seulement. C'est ce qui a été choisi par la défense d'Éric Salvaille. On a Nancy avec nous. Bonjour, Nancy.
Oui, bon matin. Moi, je trouve qu'on veut simplement déstabiliser complètement la victime. Et c'était clair là, hier quand on écoutait sur vos ondes la façon qu'il posait les questions, qu'il était très près de la victime quand il s'adressait à lui, qu'il avait le droit de lever le ton. Je l'ai vécu dans un procès. C'est horrible, c'est dégueulasse. T'as beau être honnête, intègre, avoir monté un dossier béton, être allé chercher des professionnels, être allé chercher des avis de professionnels pour pouvoir démontrer ta cause de façon honnête. Si l'avocat il t'a dans le collimateur, l'avocat le procureur il t'a dans le collimateur puis il décide qu'il te rentre dedans puis qu'il défait ton intégrité, il va y arriver. En tout cas, chapeau à ce gars-là, M. Duguay, qui a l'audace de se tenir debout puis d'aller jusqu'au bout pour se présenter devant quelqu'un d'aussi connu qu'Éric Salvaille.
Justement, j'ai une question pour vous là-dessus, Nancy. Oui. On a commencé hier, là, il y a des chroniqueurs en respectacle qui ont commencé à dire à essayer de voir quand est-ce qu'Éric Salvaille pourrait reprendre son rôle d'animateur à la télé. Avez-vous trouvé ça grossier, vous?
Jamais. J'espère que jamais il va retourner à la télé. Même s'il était déclaré non coupable, j'espère qu'on lui donnera pas une deuxième chance parce que ce qu'il a fait, oui, il y a eu des allégations qu'il a fait d'autres victimes. Ces gens-là n'ont pas eu le courage et l'audace de se rendre jusqu'au procès, mais ces gens-là ont été blessés quand même dans leur intégrité. Puis j'espère que ce gars-là, il y aura jamais, jamais une deuxième chance à ce niveau-là, juste pour que le message soit bien clair. C'est pas parce que tu es connu puis que tu as de l'argent, tu as du cash, que tu peux acheter le meilleur avocat de Montréal. C'est ça l'affaire. Mmh. C'est quand tu vas en cour pour l'avoir vécu plus qu'une fois, là, dans une cause de moisissure où j'essayais de faire démontrer à mon propriétaire que c'était insalubre pour mon bébé, puis qu'il était malade seulement quand il était chez nous. Il est allé se payer la meilleure avocate de Longueuil, mm-hmm. qui m'a ramassée, là, vous avez pas aidé. Mm-hmm. J'avais beau avoir un rapport d'expert. Écoute, il a même pas jeté un coup d'œil. C'est horrible, c'est dégueulasse.
Mais comme vous dites, puis merci de votre témoignage, comme vous dites, si vous parliez de la deuxième chance, si Éric Salvan, il est innocenté. Ben, il est innocenté. Ça vient de finir. Hein? On a Jean-François avec nous. Bonjour. Votre opinion là-dessus par rapport à ce qu'on est en train de... On assiste donc au procès. Les deux premières journées ont été difficiles pour la victime. Est-ce qu'on est en train de faire son procès d'après vous, Jean-François?
Ben, écoutez, non. Moi, je crois pas qu'on est en train de faire son procès. Moi, ce qui me fait vraiment peur là, dans la situation d'Éric Savaille et depuis le début, désolé, je l'occupe, c'est que n'importe qui dans la société peut saboter la carrière de n'importe qui sur des allégations. Je comprends la frustration de certains, mais je me dis à un moment donné, Éric Salvaille est innocent jusqu'à preuve du contraire pour l'instant. Il a perdu beaucoup jusqu'à maintenant. Et s'il est déclaré innocent, moi, en tout cas, c'est, j'ai peur. Je regarde ça aller, là, puis je me dis, hé là là, c'est dangereux.
Ben merci, Jean-François. On a Alex avec nous. Bonjour. Alex?
Oui, bonjour.
On vous écoute, Alex.
Oui, alors moi, ce que j'avais le goût de dire, c'est qu'il ne faut pas se surprendre. Quand on connaît le système de justice, c'est le rôle là, de la défense de miner la crédibilité des témoins.
Ouais.
Et donc, c'est
pour vous, c'est normal. Ça. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
D'accord. Merci beaucoup. Jean-Claude Barnheim, Maître Jean-Pierre Rancourt. Est-ce que d'après vous, puis je commence avec vous, Maître Rancourt, c'est vous l'avocat criminaliste ici, si vous étiez à la place de Maître Mascotte, feriez-vous témoigner Éric Salvain aujourd'hui ou demain?
Très bonne question. Très bonne question. Moi, je pense que, premièrement, la décision revient à Salvain. Hein. Vous savez que c'est lui qui va prendre la décision, sur les conseils, évidemment, de l'avocat. Mais c'est très délicat de le faire témoigner parce que lui aussi a fait des déclarations. Mm-hmm. Lui aussi a envoyé des emails, des textes et il va être compte interrogé là-dessus. Ça va être difficile. Alors,
il a quand même reconnu en partie qu'il avait été particulier, ouais. Là, qu'il y a eu des agissements déplacés.
C'est ça. Et là, le procureur va lui demander qu'est-ce que vous vouliez dire par ces ajustements-là. Ouais. Racontez-nous ce que c'était. Puis là, c'est sûr qu'on va le compte interroger rudement là-dessus. Il va devoir s'expliquer. Est-ce que ça vaut la peine pour lui d'aller témoigner? D'un autre côté, une seule version, il y a beau avoir un problème de crédibilité, mais il y a une version versus zéro. Moi, j'hésiterais à ne pas le faire témoigner.
J'hésiterais à ne pas le faire témoigner.
À ne pas le faire témoigner.
Ça veut dire, vous lui...
Je le ferai témoigner.
Bon, ben c'est ça. est-ce que je voulais juste être sûr?
Oui.
Jean-Claude Barnheim?
Moi, ce que je voudrais, c'est revenir sur la question des changements dans le système. Rappelons-nous à l'époque où les femmes étaient accusées de meurtre face à leur mari qui les violentait. Ça a pris des années, finalement, avant qu'on accepte le principe du syndrome de la femme battue. Je pense qu'on est là dans le même type de situation. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion qui soit faite par le système de justice. Ce sont les autorités politiques qui détiennent les clés du fonctionnement du système. Et la question qui se pose, c'est pourquoi tous les ministres de la Justice, au niveau fédéral, au niveau de toutes les provinces du Canada, se refusent à faire des réflexions sur le fonctionnement du système. Et c'est là qu'est la question de fond. L'exemple du procès de Salvay le démontre très clairement. Et je pense que au-delà de ce cas-là, je pense qu'il faut que la réflexion commence à émerger et qu'il y ait des gens qui aient le courage. Madame Sonia Lebel, oui, a ce mot couramment dans la bouche, le courage. Oui. Mais je pense que c'est à elle d'avoir le courage aujourd'hui de poser des gestes concrets, nonobstant le cas en particulier.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. On va suivre la suite de ce procès, bien sûr. Je vous rappelle que 3 verdicts possibles. Agression sexuelle, coupable ou non. Harcèlement criminel, coupable ou non. Séquestration, coupable ou non. On verra si Éric Salvaille va témoigner. Merci beaucoup à tous les deux. Maître Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste, Jean-Claude Barnum est spécialiste en criminologie. On s'arrête ici. Tout de suite après la pause, je vais vous demander si pour vous, devenir propriétaire, c'est encore un rêve réalisable. À tout de suite, tout le monde.